La conversation littéraire. Mathias Sénard.
Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans la conversation littéraire. Une conversation littéraire aujourd'hui placée sous le signe de la filiation du portrait du père. J'ai la joie de recevoir la romancière Hélène Gaudy pour son roman Archipel, qui paraît aux éditions de l'Olivier, et le savant spécialiste de littérature Laurent Demanze, auteur de nombreux essais, entre autres de Encre orpheline, essai consacré au récit de filiation paru aux éditions José Corti. Bonjour Laurent Demanze.
Bonjour Mathias Sénard.
Vous êtes avec nous à distance depuis les studios de l'antenne de Radio France à Lyon. Merci de nous accompagner dans cette émission.
Merci de l'invitation.
Hélène Gaudy, vous êtes romancière. On vous doit notamment le très beau Une île, une forteresse, paru en 2016 aux éditions Inculte, consacré au ghetto de Térésine, ou encore Un monde sans rivage, paru chez Actes Sud en 2019. Et j'avais eu le plaisir de vous recevoir à ce micro au moment de la parution de Villa Zamir, cette déambulation à Roquebrune-Cap-Martin, dont nous reparlerons sans doute tout à l'heure. Et aujourd'hui, vous publiez le récit intitulé Archipel, aux éditions de l'Olivier. Archipel qui figure dans la sélection France Culture de romans de la rentrée littéraire. Mais pour commencer, Laurent Demanze, vous remarquez dans un article paru dans la revue en ligne AOC le rapport entre la plupart des titres des livres d'Hélène Gaudy ici présente et la mer, les îles et les rivages.
Oh, c'est parce qu'il y a un tropisme très fort de la part d'Hélène Gaudy pour tout ce qui relève de l'élément marin, des rivages, d'un désir de confusion dans le paysage et dans la géographie et d'une fascination pour le motif de l'île, une fascination très ambivalente d'ailleurs, comme on voit dans Une île, une forteresse, parce que l'île est à la fois un espace de protection et un espace d'emprisonnement.
Alors Hélène Gaudy, Archipel, c'est effectivement un ensemble d'îles et ça s'ouvre sur le beau motif de l'île Jean-Charles, île de Louisiane. Est-ce que pour vous, ce roman dessine une carte de votre père comme un territoire complexe?
C'est ce que ça a commencé à faire au fil de l'écriture. Et c'est vrai qu'au départ, il y a eu cette île, donc qui est une île qui se situe en Louisiane et qui est l'une des premières îles qui va disparaître, enfin en tout cas d'une des premières îles américaines qui va disparaître à cause du réchauffement climatique. Et la coïncidence de du nom de cette île, qui porte le prénom de mon père, a réveillé une sorte d'urgence, d'envie de mieux le cerner, le voir, le découvrir.
C'est vraiment l'île en soi.
C'est vraiment l'île. Oui, c'est pas un motif illustratif, c'est vraiment quelque chose qui m'a l'île et cette citation de Georges Perec qui ouvre le livre qui est donc il y aurait là-bas à l'autre bout du monde une île. C'est vraiment la conjonction de ces deux éléments qui m'a fait écrire la première phrase du texte et de fil en aiguille l'envie de travailler sur mon père est venue vraiment de cette coïncidence géographique. Et c'est vrai que cette île, petit à petit, on a rencontré d'autres et je me suis rendu compte que ça a créé tout un archipel et toute une carte, finalement, de sa vie, mais aussi de nos liens, des liens de filiation et des liens aussi beaucoup plus, beaucoup moins serrés, on va dire, qui le reliaient aussi et qui le relient toujours à plein d'autres éléments, à plein de périodes historiques aussi. Et donc la carte s'est agrandie.
Vous commencez par le nom de votre père, mais ensuite tout ça se transforme en une enquête tout à fait réelle auprès de votre père. Et dès le début du texte, vous le définissez ainsi, un homme-enfant qui ne sait rien de son enfance, à la fantaisie inébranlable et au sérieux inquiet, un homme qui toute sa vie s'est efforcé de sauver ce qu'il pouvait sauver alors que son propre passé lui reste inaccessible. Ça, vous avez mis du temps quand même, je suppose, à découvrir ou à résumer si bien le personnage de votre père. Ou est-ce que, quand vous commencez à écrire, vous avez déjà cette intuition et cette connaissance?
Oui, je pense que c'était le besoin de départ, peut-être le manque de départ aussi, c'est d'avoir de vivre avec un père avec qui j'ai toujours partagé beaucoup de choses extérieures, voilà, des œuvres d'art, des livres, des envies de voyage, plein de choses comme ça, mais qui finalement ne m'a presque jamais rien dit de sa propre vie et qui d'ailleurs me disait je n'ai pas de souvenirs d'enfance, presque pas de souvenirs de jeunesse, ou alors ma vie est pas du tout intéressante, il y a rien à en raconter. Et c'est vraiment le contraste, on va dire, entre la richesse de l'imaginaire qu'il m'a transmis, et qui est aussi beaucoup un imaginaire géographique, et en même temps le mystère finalement de sa propre existence qui m'a donné envie de frotter les deux quelque part, de me dire je vais pas le faire parler, je vais regarder ce qu'il me montre. Ce qu'il a mis depuis que je suis toute petite, il me montre des choses que je regarde pas. Et c'est peut-être en regardant ces choses-là que je vais finalement le voir, lui.
Alors, le livre commence par ce rendez-vous. Vous prenez rendez-vous avec votre père. Et rien que ça, ça donne un côté un peu solennel. Vous prenez rendez-vous, donc, en face de chez vous, enfin, de l'appartement de vos parents. Vos parents ont vécu, vous avez grandi. Et ce rendez-vous a pour but, on le comprend assez vite, d'aller dans son atelier, qui est un peu son espace, l'espace qui le définit, que vous visitez un peu comme si c'était la première fois.
Oui, tout à fait. Ce rendez-vous, c'est vrai, c'est un peu solennel. C'était presque un peu intimidant. On s'est retrouvés tous les deux, l'un en face de l'autre.
Mais qu'est-ce que vous lui dites quand vous prenez rendez-vous avec lui ?
Oh, je crois que j'ai dû lui parler assez vite d'un projet d'écriture mais,
d'accord,
mais aussi d'un projet peut-être que j'ai commencé par lui dire tout simplement « prenons un café ». Voilà, ce qui peut paraître complètement banal, mais c'est vrai que moi j'ai des parents qui sont un couple très fusionnel, que j'ai toujours vu vraiment comme une entité. Et mon père a toujours été un peu dans l'ombre de cette entité-là. Quoi. C'était assez difficile de lui parler à lui uniquement. Et donc voilà, j'ai eu envie de faire ça. Alors je pense que ça l'a un peu intimidé, que ça nous a tous les deux un peu intimidés. Mais ça a été important et là c'est vrai, c'est géographique aussi, mais rien que le fait d'être dans un café et pas dans l'appartement où on a ses habitudes, ça commence à chambouler un peu la relation quotidienne, la relation père-fille. Et là, d'un coup, on était comme deux personnes en train de prendre un café et quelque chose d'autre devenait possible que les rapports tellement façonnés par tellement d'années de vie ensemble qu'ils en deviennent, voilà, finalement, on n'arrive pas à sortir de ce schéma-là. Et là, on en est sorti rien qu'en se déportant un tout petit peu géographiquement. Et effectivement, l'atelier, donc c'est un lieu où il a beaucoup peint, où il est beaucoup allé, mais maintenant il est trop âgé pour s'y rendre. Et c'est un lieu assez fou où il a accumulé beaucoup, beaucoup d'objets très hétéroclites depuis des décennies. Et là, c'est pareil, c'est un lieu qui, moi, m'avait toujours semblé normal, enfin habituel, puisque je l'avais toujours connu. Et d'un coup, je me suis dit, mais ce lieu renferme plein d'histoires. Il y a vraiment des strates d'objets et puis aussi des choses qui racontent plein de choses. Et c'est peut-être le moment de les interroger.
Ça a l'air absolument incroyable comme endroit. On est à Paris, apparemment entre Gare de Lyon et Bastille, dans le 12e arrondissement. Et c'est une accumulation. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet. Vous décrivez tellement bien cet endroit qu'on a l'impression de, à la fois quelque chose de petit, mais en même temps immense pour ce qu'il contient. Et presque, ça représente votre père, au sens où il n'a pas de souvenirs, mais il a des objets. Comme si finalement, il avait, au lieu d'avoir, il a des souvenirs dans ses carnets et dans ses objets-là. Voilà. Mmh. Et c'est lui en entier, cet atelier. C'est un peu comme ça que vous le décrivez.
Oui, c'est ça, c'est vraiment un agencement. Alors, il y a des objets qui ont une certaine valeur et d'autres qui n'en ont pas du tout. Donc, moi, ce qui m'avait assez fascinée aussi, c'est qu'il ne choisit pas ses objets en fonction de leur valeur. Il n'y a vraiment pas de hiérarchie de valeur. Il y a plein de choses qui cohabitent ensemble. Ça peut être des masques africains comme des cartes de parc-mètre ou des tickets de métro ou des enclumettes. Voilà, il a une tour entière faite d'enclumettes qui est un outil qui ne sert plus beaucoup maintenant. Donc, il y a vraiment cette envie chez lui
à aiguiser les faux.
Absolument, à aiguiser les faux, mais peu de gens, je crois, aiguisent encore leurs faux avec des enclumettes. Mais... Donc, il y a, je pense, cette envie de garder des témoignages de la vie des autres. Voilà, c'est ça qui m'a aussi intéressée avec mon père, c'est qu'il garde pas tellement des souvenirs personnels. Il garde des choses qu'il trouve dans la rue. Par exemple, il a aussi un nombre impressionnant d'halogènes qu'il a récupérés et qui s'allument tous en même temps quand on allume le compteur de l'atelier, avec la radio aussi qui d'un coup, voilà, on a une espèce de son et lumière qui se déclenche d'un coup. Et donc, il récupère des corps de stylo Bic vide, par exemple, aussi. Des choses comme ça qui vraiment ne servent objectivement à rien. Et avec l'idée qu'il va les mettre ensemble, et que s'il les met ensemble, ça va devenir quelque chose. Alors, il y a l'influence des surréalistes que mon père a beaucoup, auquel il s'est beaucoup intéressé, dans l'idée vraiment de fabriquer des assemblages, en fait, des assemblages d'objets qui finissent par créer, c'est vrai, une sorte de... Cet atelier est presque comme une sculpture géante, parce que chaque chose a sa place. Et en même temps, c'est un portrait de lui Et en même temps, c'est un portrait de toutes les personnes inconnues à qui ces objets ont appartenu. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus étrange et intéressant dans sa façon de faire. C'est finalement recueillir une mémoire qui n'est pas la sienne, mais qui finit par former son portrait.
Hélène Gaudy, il faut dire que votre père était enseignant dans une école d'art, mais qu'il est lui-même artiste, poète, qu'il a une vie de créateur.
Mmh. Oui, mais de créateur très discret. C'est-à-dire qu'il n'a jamais voulu faire publier ses poèmes. Un poème par jour depuis les années 60 quand même, ça fait un certain nombre de poèmes.
Alors il y a un livre quand même.
Oui, il y a des livres d'artistes, il y a des livres à petit tirage, mais il n'a pas cherché à diffuser. Ça a toujours été des rencontres ou des amis artistes qui lui proposaient quelque chose, mais il n'avait pas le désir lui-même d'être lu particulièrement. Et effectivement, il a beaucoup peint et c'est pareil, les expositions, c'était plus une souffrance qu'autre chose quand il fallait se séparer de ses tableaux. Donc je pense que pour lui, il y a vraiment l'envie de créer aussi dans la discrétion. Le secret, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas dans la discrétion, pour lui-même et dans ce lieu-là.
Et est-ce que le projet du livre, pour vous, c'est devenu un peu pas vraiment raconter la vie de votre père, enfin pas d'une façon directe, mais en tout cas peut-être justement démêler un peu cet écheveau ou séparer un peu tous ces objets pour en donner quelque chose de l'ordre de la carte, justement?
Oui, et puis je pense que ce que j'avais envie de faire, c'était travailler sur quelqu'un de très proche, comme si c'était un inconnu. J'avais écrit un livre donc précédemment, Un monde sans rivage, qui était une enquête sur des explorateurs suédois du 19e. Et donc j'avais mis en place un certain nombre d'outils pour essayer de les approcher, avec les archives, avec les lettres qu'ils avaient laissées. Et ça m'avait donné l'impression finalement de toucher du doigt presque ces personnages très lointains. Et il m'a semblé que cette approche-là pouvait me faire voir mon père complètement autrement. Donc ce qui m'a intéressé, au-delà du fait effectivement de raconter sa vie, c'était pas ça le projet, c'était plutôt de réfléchir à ce que sont nos parents pour nous et à la manière dont on peut retourner la pièce un petit peu pour essayer de voir derrière les chevaux des relations personnelles, intimes, toute la face inconnue en fait des gens qui nous ont fait, qui nous ont élevés, et aussi d'élargir les choses. Moi, c'est ça que j'avais envie de faire parce que justement, comme il lui-même collectionne une mémoire collective, j'avais envie de me servir de ce vecteur-là pour approcher des époques que j'ai pas vécues, des mouvements artistiques, des épisodes historiques aussi, et vraiment de l'idée de la carte, l'idée de l'archipel, c'est vraiment de partir d'une personne pour finalement essayer d'approcher tout un écheveau de choses que j'ai pas vécues et que j'arrive à toucher du doigt à travers ça.
Oui, alors, bien évidemment, la deuxième île proche de l'île Jean-Charles, c'est votre mère, qui... Vous dites qu'elle vous a confié « il m'en a fait voir ». Et cette expression est absolument magnifique. Évidemment, il m'en a fait voir. Vous ajoutez souffrir et découvrir, regarder.
Alors, elle parle des voyages. Hein. Je pense qu'il lui en a pas fait voir particulièrement au quotidien, mais ils ont beaucoup voyagé ensemble et dans des conditions.
Ah bon, moi je suis presque déçu parce que j'ai trouvé le jeu de mots assez magnifique.
Oui, il y a le jeu de mots, mais dans le cadre vraiment de la découverte des pays lointains qu'ils ont arpentés ensemble, vraiment à la routard, quoi. C'est-à-dire dans des conditions un peu rudes, et puis à une époque où ils allaient dans des pays où les Occidentaux allaient peu, et donc où il y avait pas beaucoup Enfin, on voyageait pas de manière très confortable, quoi. Donc, elle parlait vraiment de ces moments-là où effectivement, c'était dur, mais il y avait cette envie de regarder, quoi.
Et puis, autre île, les grands-parents, qui sont aussi, qui occupent une grande partie du récit. Et, votre père disait, je n'ai pas de souvenir d'enfance, pas de souvenir de jeunesse, pas de souvenir d'adolescence. Et pourtant, vous avez réussi assez vite à reconstituer grande partie de ses souvenirs, et ce grâce à des carnets qui ont l'air absolument magiques, ces objets.
Oui, c'est des beaux objets qu'il a fini par me confier. Mais alors, c'était assez drôle parce qu'il a commencé par me dire « Mais moi, j'ai rien à dire, donc voilà, j'ai pas de souvenirs, ma vie va intéresser personne. » Enfin, vraiment, il comprenait pas trop bien pourquoi il pouvait être un objet d'intérêt. Et puis, petit à petit, il a quand même il a participé au projet vraiment, et vraiment en me confiant des objets, un petit mot par-ci, un livre par-là, et puis d'un coup ces carnets que j'ai vus apparaître, dont je connaissais pas du tout l'existence, et où il a raconté, entre 16 et 22 ans, beaucoup d'épisodes de sa vie, mais aussi des poèmes, des petits textes de fiction, et puis il collait des photos, des dessins, des tickets de cinéma, enfin voilà, plein de choses, donc c'est vraiment des beaux objets. Et j'ai été assez stupéfaite de découvrir ces carnets parce que d'un coup j'avais accès de manière très directe à ce qu'il avait pu ressentir quand il était adolescent notamment. Et moi j'avais toujours été persuadée que mon père était un... Déjà, je ne voyais pas du tout mon père adolescent. C'était pas possible pour moi.
Vous dites que c'est l'image manquante.
C'est ça, parce que mon père est très... un côté très enfantin, et je l'ai toujours vu adulte, mais vraiment ce moment de l'adolescence qui, pour moi, dans la manière dont je l'ai vécu, mais c'est pas très original, mais a été un moment d'une grande intensité, quelque chose de à la fois de douloureux, mais de très, très intense, voilà. J'imaginais pas du tout mon père avoir connu cette forme d'intensité de l'adolescence. Et d'un coup, en lisant ses amours, sa colère aussi, j'ai découvert qu'il avait été très en colère. Alors que moi, je l'ai toujours vu très doux et très apaisé. Donc là, d'un coup, il y avait un truc presque violent et qu'il n'aurait évidemment jamais pu me raconter parce que maintenant, ses souvenirs sont... Déjà, il n'en a pas beaucoup. Et puis, ils sont aseptisés, on va dire, par le temps, par le fait que ce soit devenu quelqu'un de raisonnable avec l'âge. Et là, là c'était brut. Oui.
Hélène Gaudy, est-ce qu'il n'y a pas un moment de gêne? Peut-être pas de honte, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas de gêne à se pencher justement dans les souvenirs de ses parents et à les écrire.
Si, bien sûr. Alors, vraiment, c'est pas un... Si j'avais eu le projet tout de suite de me dire je vais écrire sur mon père, déjà, je pense que j'aurais tout de suite renoncé parce que cette gêne aurait été beaucoup plus importante que l'envie. Et moi, j'aime bien me laisser un peu surprendre aussi par l'écriture et ça vient souvent des lieux. C'est vrai que j'ai beaucoup écrit sur des lieux et souvent j'essaie de tirer le fil comme ça d'un endroit que je vais regarder et voir où cet endroit m'emmène. Et donc là, j'ai commencé par cette île, par cet atelier. Et puis évidemment, ça m'a amené à raconter des choses plus intimes, plus personnelles que je n'aurais jamais pensé forcément aborder autrement. Mais en même temps, le fil conducteur comme ça du lieu et de l'enquête, c'est quelque chose qui porte et qui donne un grand désir, une grande curiosité. Et d'un coup, j'ai vu mon père comme un objet de curiosité, ce qui n'avait jamais été le cas avant, parce qu'avant, on était comme les parents et les enfants, quoi, avec beaucoup de petits agacements, de lassitude, de tout ce qui fait aussi la vie quotidienne. Et d'un coup, il est sorti de tout ça et il m'est apparu comme un objet extrêmement, vraiment un objet de curiosité. Et ça s'est passé au-dessus de la gêne, je pense. Après, je pense que j'ai aussi fait attention à ce que j'ai soulevé. Et par exemple, les lettres d'amour de mes parents qui m'ont confié, je les ai lues jusqu'à un certain point. Après, j'ai arrêté de les lire parce que j'ai bien vu que c'était pas mon endroit, voilà, que j'avais pas forcément envie de tout savoir. Et finalement, ce que j'ai appris, c'est presque des choses qui précèdent le moment où ça devient mes parents. Je pense que la vie intime de mes parents, j'avais pas tellement envie de la connaître. Mais par contre, la personne que mon père avait été en dehors du fait d'être mon père, donc non seulement avant, mais aussi dans sa vie secrète, parce que donc mon père écrit de la poésie et très souvent, je l'ai vu regarder ailleurs et puis je voyais qu'il était avec nous, mais qu'il était aussi dans un autre endroit. Et c'était ça que je voulais connaître aussi. Où est-ce qu'il va quand il s'absente et qu'il n'est plus avec nous et qu'il pense à tous ces objets, à tous ces textes qu'il écrit, à tous ces tableaux, toute cette part-là de sa vie.
Est-ce que vous aviez lu les textes de votre père avant, bien sûr?
Alors, j'en ai lu un certain nombre, pas tous, hein. J'ai toujours pas tous lu d'ailleurs, mais... parce qu'ils sont très nombreux, mais oui, bien sûr, oui. Mais c'est une poésie qu'on m'a toujours, que j'ai toujours entendu définie par les gens qui m'en parlaient comme très hermétique. Et enfant, c'est vrai que ça me semblait, un langage très mystérieux, cette poésie. Et à la fois, porteuse de beauté, de mystère, mais comme une langue qu'on n'arrive pas complètement à comprendre. Et j'avais envie de la comprendre et de confronter tout ça aussi. Et je crois que je la comprends mieux maintenant.
Alors, ce qui est fascinant dans Archipel, c'est que c'est vraiment un portrait de votre père, mais sans vous. C'est-à-dire que c'est pas du tout un rapport psychanalytique au sens comme Pascal Quignard peut penser, par exemple, ce moment de la nuit de sa conception, regarder un peu derrière l'épaule justement du couple de ses parents et ainsi de suite. Non, vous, c'est pas votre rapport à votre père, c'est vraiment la vie de votre père, un peu comme si vous en étiez séparés.
Alors il y a des choses de l'enfance où j'ai cherché quand même à voir ce qui nous rapprochait. Et c'est vrai que ce qui nous rapprochait le plus dans l'enfance, c'était le jeu. C'est vrai que mon père, c'est quelqu'un qui a beaucoup joué avec moi. Et comme il parlait peu, qu'il racontait peu de choses, c'était vraiment dans ce moment du jeu où on devient quelqu'un d'autre finalement, qu'on arrivait vraiment à se dire des choses, à se parler, à être ensemble. Et je crois que j'ai cherché de ce côté-là en fait. J'ai cherché... à quoi jouait mon père, voilà, où il était dans les moments où il n'était pas dans sa vie de famille. Donc c'est une manière aussi pour moi de creuser notre vie ensemble et puis surtout tout ce qu'il m'a transmis, mais tout ce qu'il m'a transmis en dehors effectivement de la vie quotidienne, tout ce qui échappe en fait à cette vie quotidienne.
Hélène Gaudy, Archipel, c'est aussi le portrait de vos grands-pères et notamment de votre grand-père paternel. Bon, là, c'est un peu, on a l'impression que peut-être vous avez pour le moment, écarter un peu la branche maternelle, que ce sera peut-être l'objet d'autres îles ou d'autres essais plus tard. Vie aussi absolument fascinante. Est-ce que vous connaissiez, si vous en connaissiez plus, peut-être, avant de commencer à écrire Archipel?
Je connaissais des points, voilà. Et là, ça a été un petit peu le travail, ça a été aussi de relier les points et de voir ce que ça dessinait. C'est vrai que mes grands-parents, alors je connais plus de choses de mon grand-père, ma grand-mère apparaît aussi, et c'est vrai qu'elle apparaît de manière moins longue dans le livre, mais pour moi c'est un moment très important, parce que ma grand-mère a toujours été dans son ombre, et justement de révéler aussi un petit peu ce que cette ombre-là cachait, pour moi ça a été très important. Mais mes grands-parents étaient des gens, mes grands-parents paternels, étaient des gens très, très enfermés dans quelque chose et je ne savais pas dans quoi. C'est-à-dire qu'on avait du mal à communiquer, il y avait quelque chose de difficile dans nos relations. Et c'est vrai qu'en creusant donc la période de la guerre, qui est la petite enfance de mon père, j'avais vraiment envie de remonter jusqu'à cette petite enfance pour essayer de comprendre justement pourquoi mon père était resté un enfant quelque part. J'ai l'impression, en tout cas dans son cas, que quand on reste quelque part enfermé dans l'enfance, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas... C'est une enfance qui ne s'est pas terminée, qui continue à déborder comme ça sur tout le reste. Et qu'est-ce qu'elle avait de particulier pour que ça l'empêche de la quitter, pour qu'il n'arrive pas à passer le seuil de l'enfance. Et cette enfance dans la guerre, c'est aussi une enfance clandestine, parce que ses parents étaient résistants et ils n'avaient pas le droit de dire où il habitait. Donc il y avait toute une forme d'interdiction du langage. Il n'avait pas le droit de nommer les lieux, par exemple. Et ça, d'aller creuser un petit peu ça, ça m'a donné des clés, non seulement sur lui, mais aussi sur mes grands-parents. Et sur le fait que, quelque part, ils étaient restés... même après-guerre, enfermé dans cette forme de clandestinité, dans cette forme de secret. Il y a tout un motif de l'évasion qui revient aussi beaucoup, puisque...
Ah oui, c'est un aspect assez incroyable de la vie du grand-père, cette évasion de ce camp de Vauves, comment on prononce Vauves ?
C'est ça, oui. Oui, oui, il a participé à faire évader un camp, effectivement. Et lui, il était chargé de trouver des planques aux détenus qu'il avait fait évader. Et donc de toute la logistique de la disparition, finalement. La logistique de l'évasion et de la disparition. Et lui-même est resté très enfermé, voilà, n'a jamais réussi à sortir de cet enfermement que la guerre avait créé. Bon, alors c'est une interprétation personnelle, hein, évidemment. Les textes comme celui-ci, je pense, sont faits aussi de beaucoup d'hypothèses et on réécrit la vie de nos parents, de nos grands-parents. Alors pour mes grands-parents, ils ne sont plus là pour dire ce qu'ils en pensent, mais pour mon père, j'avais envie justement qu'il participe à cette réécriture et qu'il puisse me dire, non, là, tu te trompes, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, ou pour moi, ça, c'est violent, j'ai pas envie que tu l'écrives, et surtout que ça lui fasse revenir des souvenirs. Donc voilà, souvent, je me trompe, certainement, mais ça a été un texte à plusieurs, quelque part, un texte
vivant. Et où est-ce qu'il est, il est intervenu, à quel moment, alors?
Alors, je lui ai fait annoter les textes en cours d'écriture, quand j'ai eu une première version. Et donc, je lui ai dit, essaye d'ouvrir les plis, on va dire, d'aller remplir les trous, de voir s'il y a des choses qui manquent, s'il y a des choses que toi tu raconterais autrement. Donc je voulais vraiment qu'il intervienne et qu'il écrive aussi sur le manuscrit ce qu'il a fait. Donc il y a des choses qu'il a ajoutées, qu'il a certaines qui sont reproduites dans le texte d'ailleurs, qui sont vraiment ses mots. Et je voulais vraiment que ce soit ce processus-là et que quelque part je me suis retrouvée à lui raconter moi-même ses souvenirs. Et ça, c'était assez étonnant puisque je pense que pour lui, ça a été à la fois un peu étrange parce que quelqu'un d'autre qui vient vous raconter votre propre vie, c'est quand même toujours un peu dérangeant. Et en même temps, ça a ravivé beaucoup de choses.
Mais est-ce qu'il a dit, à un moment, il a dit non, ça non. Ça, tu l'enlèves.
Alors, il l'a dit, mais étonnamment sur des choses assez anecdotiques, des choses concernant ses amis, où il avait peur qu'un tel se froisse parce que j'avais pas parlé de lui. Enfin, c'était vraiment des choses très... Je pense que mon père a toujours peur de déranger ou de vexer ou de faire de la peine. Et c'était plus des choses de cet ordre où voilà, il avait à cœur que je sois juste avec les personnes dont je parle dans le livre. Et là-dessus, je l'ai bien sûr écouté.
Une partie fascinante du récit, c'est ses années algériennes, quand il s'installe tout jeune professeur à Oran, et ensuite son service militaire, peu de temps après l'indépendance de l'Algérie, alors dans une base qui est restée française après les accords d'Évian. Ça, c'est des choses que vous connaissiez ?
Pas du tout. Alors, je savais qu'il était parti en Algérie, mais je n'avais aucune connaissance de ce qui s'y était passé. Et c'est vrai que c'est un long passage de ses carnets que je trouve très beau aussi, parce qu'il a une manière de décrire les lieux, justement, les paysages, qui est très incarné. Et c'est un moment où il est très en colère aussi, je pense, parce qu'il était lui-même pour l'indépendance de l'Algérie et il vivait très mal le fait d'être un fonctionnaire français en Algérie. Donc c'est vraiment un moment de sa vie où il se retrouve en porte-à-faux entre ses convictions et ce qu'il arrive à faire. Un moment de danger aussi, parce que donc il était menacé là-bas en raison de ses convictions politiques. Donc c'est un moment... Ouais, vraiment très, très tendu. Et son écriture aussi est très tendue à ce moment-là.
Et puis, il y a aussi l'affaire du nucléaire, enfin, que vous racontez par la suite, des essais nucléaires français dans le désert. Enfin, bref, c'est aussi un peu, une histoire de France en archipel, en îlot. Mais en tout cas, une reconstitution de ce qu'a été l'histoire de la France depuis, la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui.
Oui, il y a 68 aussi, par exemple, dans lequel mes parents ont milité beaucoup. Donc, c'est vrai que c'est des périodes, avec lesquels ce travail m'a donné une forme d'accès direct sur des points de détail, effectivement. Hein, je ne prétends pas du tout, c'est vrai, écrire une histoire de France, mais en tout cas, essayer d'avoir des points de contact qui peuvent être une archive, qui peuvent être un récit, un objet même des fois, qui d'un coup font sortir un petit peu ces moments de la représentation que je pouvais avoir, qui étaient très lointaines, et qui d'un coup me les rendent beaucoup plus vifs, beaucoup plus vivants. Et c'est vrai que ça traverse. Mon père est né en 38, donc il a traversé quand même effectivement une longue période de l'histoire de France, et surtout il en a accumulé les traces. Donc ça permet quand même en écrivant de s'appuyer, voilà, petit à petit sur des bornes qu'on va suivre pour retracer cette histoire.
Vous écrivez, Hélène Gaudie, « Je me demande quelle forme ont ces souvenirs qui sommeillent en nous avant d'être ainsi réactivés, cette mémoire qu'on ignore posséder, si elle n'est pas plus fertile à l'état de jachère, et si ce n'est pas précisément pour cela que mon père a choisi de ne pas y toucher. » Est-ce que le souvenir épuise en quelque sorte la mémoire ? C'est-à-dire comme s'il y avait une espèce d'énergie fossile, un peu une quantité de mémoire, voilà, que le souvenir, en étant écrit, épuiserait, prendrait depuis le sable dans lequel il sommeille.
Mais il me semble qu'il y a une richesse de l'obscurité de la mémoire, oui, et c'est ce que j'ai fini par me dire en observant mon père et en essayant de le comprendre. Au départ, je pensais que sa volonté de ne pas raconter les souvenirs était peut-être due au fait que c'était douloureux ou qu'il avait refusé de laisser les choses s'imprimer en lui. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que c'était peut-être aussi un peu l'inverse et qu'il avait peut-être aussi envie de garder ces choses-là vives. Si on parle encore une fois des surréalistes, la puissance du rêve, la puissance du hasard, la puissance de ce qu'il y a d'obscur en nous, c'est vrai que quand on raconte un souvenir, on le met à jour. Et on l'appauvrit aussi quelque part, enfin en tout cas on le restreint. Et petit à petit j'ai eu l'impression que mon père possédait effectivement toute une mémoire assez souterraine, mais que c'était là qu'il puisait sa poésie, qu'il puisait son rapport au monde, qui a un rapport aussi très rêveur et très observateur, très, très poreux à ce qui l'entoure. Et que finalement, peut-être que toute cette entreprise de garder des traces, de garder des objets, de sauver des choses de l'oubli, c'était sa manière à lui de construire sa mémoire et qu'à l'intérieur, il y avait comme l'ombre de l'iceberg, il y avait quelque chose qu'on pouvait pas dire avec des mots, mais qui pour autant nourrit tout son rapport au monde.
Hélène Gaudy, nous avons la chance d'avoir avec nous Laurent Demanz, professeur à l'Université Grenoble-Alpes, spécialiste de littérature du XXe et du XXIe siècle. Laurent Demanz, vous avez écrit un essai paru en 2008 aux éditions José Corti, intitulé « Encres orphelines », qui s'intéresse justement aux récits de filiation. Écoutons, si vous le voulez bien, une archive d'un autre professeur, Guy Laroux, qui nous dit ce qu'est un récit de filiation.
Depuis les années 80, c'est-à-dire depuis 40 ans, s'écrivent des livres de ce genre et que nous appelons des récits de filiation. Alors pourquoi cette appellation? Je peux le dire peut-être pour signifier qu'il ne s'agit pas d'autobiographie au sens strict. Dans l'autobiographie, un sujet, je parle de je, pour faire vite. En revanche, dans le récit de filiation, un sujet, qui est donc un fils, une fille, tente au fond de s'atteindre à travers un héritage. Et ce, en se rapportant donc à ses ascendants directs, c'est le plus souvent le cas, et c'est le cas d'ailleurs des textes que vous avez cités tout à l'heure, dont le père et la mère, mais aussi en remontant parfois le cours des générations. On remonte assez volontiers jusqu'aux grands-parents, et on pourrait même remonter au-delà dans une sorte de quête généalogique. La raison culturelle à cette profusion de textes, je verrais deux raisons en gros. Il me semble que une sorte de mélancolie habite les contemporains, de sorte qu'au lieu de se projeter vers l'avenir, vers peut-être des utopies politiques ou que sais-je, ont tendance à se tourner en arrière et à regarder avec nostalgie, au fond, la communauté qui se présente à nous le plus facilement, la plus familière, c'est bien sûr la famille. Et puis, il y a bien sûr cette question capitale qui dépasse la littérature, qui est la question de la transmission. Et au fond, tous ces textes posent ou se posent la question de la transmission des héritages, ces héritages qui nous taraudent.
France Culture, la conversation littéraire. Mathias Sénard.
Nous venons d'entendre le spécialiste toulousain de littérature française, Guy Laroux, définir ce qu'est un roman de filiation, Laurent Demanz. Est-ce que vous souscrivez à cette définition ?
Oh oui, pleinement. Je trouve que la définition qu'en propose Guy Laroux est tout à fait judicieuse. Moi, ce que je retiens de sa définition, c'est cette notion de détour. C'est-à-dire qu'il s'agit pour les auteurs et les autrices de récits de filiation de se composer, de se construire, mais par le détour d'une enquête sur les ascendants. Et au lieu d'être dans une certaine complaisance envers soi-même, il y a une forme d'attention, une forme de soin, de souci d'autrui, qui enrichit, qui ouvre la subjectivité de l'écrivain ou de l'écrivaine. Et l'autre point qui me semble tout à fait judicieux, c'est le terme de mélancolie. C'est un petit peu pour ça que j'avais employé le terme encre dans Encres orphelines. C'est cette humeur noire, cette humeur sombre qui emporte la plupart des écrivains et des écrivaines et qui est une conscience d'un effacement, une conscience d'une disparition. Et le livre d'Hélène Gaudy commence bien par cet effacement ou cette disparition de l'île Jean-Charles. Hein. Donc c'est pas une nostalgie. Là, je serais peut-être un peu en porte-à-faux par rapport à ce que propose Guy Laroux, une sorte de désir de retrouver un état du monde perdu. Mais c'est bien plutôt une conscience très lucide et même critique de ce qui est en train d'arriver au présent et d'un souci d'archiver, de garder des traces de ce que le monde, la modernité, fait aux générations précédentes et fait aussi aux vivants qui nous entourent.
Vous expliquez d'ailleurs dans Encres orphelines que la disparition, justement la sensation de cette disparition et de l'irrémédiable est aussi ce qui motive l'écriture de ces récits de filiation au XXIe siècle.
Mais il y a, à partir des années 1960, quelque chose qui est souvent décrit comme une forme d'accélération de l'histoire, avec un progrès technique qui va rendre de plus en plus difficile les transmissions intergénérationnelles. Et cette accélération de l'histoire va créer des bascules dans les manières de faire, dans les manières d'être, et va susciter une sorte de désir de conserver, de créer des mausolées, d'archiver ce qui est en train de disparaître. Bien des écrivains et des écrivaines de récits de filiation, à travers les figures de l'ascendance, sont en quelque sorte en train de collecter un monde qui s'enfuit, et ça dépasse très largement les figures familiales.
Vous écrivez, le récit de filiation s'inscrit ainsi dans une époque qui a vu sombrer le temps long de la mémoire et s'émietter les communautés familiales.
Ah, ça, c'est un point qu'on peut retrouver chez bien des écrivains. Quand on pense à Pierre Bergugnot, ou Pierre Michon, ou encore Annie Ernaux, il y a quelque chose qui se joue dans une modernité qui accélère le rythme de l'histoire. C'est-à-dire que Pierre Bergugnot décrit souvent le monde paysan comme un monde qui a été celui de la reproduction à l'identique depuis le néolithique jusqu'aux années 1960, avec l'invention ensuite des tracteurs et du moteur à explosion. Ce qu'il montre, c'est en quelque sorte que la répétition des gestes, la répétition des identités vient se rompre, connaître une césure dans ces années-là, et que les individus sont en quelque sorte désorientés. Ils n'ont plus un rôle qui est le rôle à jouer, qui était celui de leurs parents. Et donc c'est cette chaîne de répétition qui est à la fois disloquée et qui est pour eux tout ensemble une liberté, c'est-à-dire on n'est pas dans la répétition sociale, on est dans l'émancipation, on est dans des parcours qui sont des parcours de transfuge de classe, pour reprendre une formule très à la mode, mais en même temps, on a le sentiment que dans cette émancipation-là, on est dans une forme de trahison, dans une forme de... où on tourne le dos à un héritage et à des manières de faire qui étaient inscrites dans un temps long.
Est-ce qu'il y a aussi un rapport différent à la fiction en soi? C'est-à-dire qu'on est plus dans un roman familial, mais est-ce que voilà l'enquête, le récit sur à partir de, pas forcément d'archives, mais en tout cas de témoignages comme le fait Hélène Gaudy, est-ce que c'est pas aussi ou d'expériences personnelles, et pas aussi un des caractéristiques de ces romans, de ces récits de filiation?
Oui, c'est d'ailleurs pour ça que Dominique Viard, qui a forgé cette notion, récit de filiation, emploie bien le terme récit. Alors, il s'agit bien d'une narration, mais d'une narration qui est étayée sur des faits avérés, qui est sourcée, qui s'appuie sur des rencontres exactes, des documents, par exemple des carnets, qui va puiser dans des témoignages précis, et qui va aller notamment chercher des objets, des vestiges matériels. Si on prend un des exemples majeurs des récits de filiation, c'est « Vie minuscule » de Pierre Michon, en 1984, il y a toute une série de collection d'objets minuscules, d'objets dérisoires que le narrateur va décrire avec un souci très méticuleux, plein d'empathie envers ces objets, parce que ces objets sont en quelque sorte dépositaires d'une mémoire qui les dépasse. Et c'est cette mémoire matérielle, en quelque sorte, qui va lester d'exactitude ces récits de filiation. Alors ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de fiction à l'intérieur de ces récits de filiation, il y a des hypothèses, il y a une part de rêve, il y a une part de dérive mentale, mais c'est souvent une fiction qui est tout à fait contrôlée, parce que ces écrivaines et ces écrivains vont utiliser des protocoles qu'ils vont emprunter la plupart du temps aux sciences humaines et aux sciences sociales. On sait bien qu'Annie Ernaux, par exemple, est une grande lectrice de sociologie, que Pierre Bergugnot est aussi lecteur de Bourdieu, ou que Pierre Michon, pour écrire « Vie minuscule », va puiser chez Michel Foucault et « La vie des hommes infâmes ».
Pierre Michon, justement, puisqu'on parle de lui, en tout cas dans la partie que vous lui consacrez, la première partie que vous lui consacrez, et notamment « Vie minuscule », Paris en 1984, vous débutez ce chapitre par une citation de Cioran qui dit « Plutarque, aujourd'hui, écrirait les vies parallèles des ratés ». Et c'est une tellement belle définition de ce que sont les vies minuscules, c'est ça, c'est un peu comme disait Jean-Pierre Richard, que vous citez, l'autobiographie oblique et éclatée de ratés, de gens qui n'ont pas eu accès justement à un blason, et la dorure, c'est un peu ce que peut leur offrir Pierre Michon par son livre.
D'ailleurs, les vies parallèles apparaissent à l'intérieur de Vies minuscules, mais c'est un livre qui est défraîchi, qui est dépareillé, comme s'il s'agissait de dire à l'intérieur de Vies minuscules cette transformation, cette métamorphose des vies parallèles. Moi, ce que je retiens de la citation de Sioran, c'est au moins deux éléments, c'est cette dimension de vie parallèle. C'est-à-dire que mettre en évidence ou écrire des récits de filiation, c'est non pas s'intéresser à une figure solitaire, c'est toujours tresser des liens, opérer des détours, mettre en place des relations, ce qu'on voit très bien dans le livre d'Hélène Gaudy, entre le père, le grand-père et même la figure de son fils. Et ce que fait Pierre Michon, il le fait à travers 8 vies qu'il constitue en quelque sorte comme un kaléidoscope où les vies se reflètent les unes les autres. Il y a véritablement une collection de vies où des reflets, des analogies, des anamorphoses permettent de créer une communauté provisoire. Et l'autre élément qui est important, c'est ce terme de raté. La plupart des récits de filiation sont des récits qui prennent en charge les figures familiales en ayant le souci de leur rendre hommage parce que l'histoire les a laissés au bord de la route, ne leur a pas rendu justice. Et donc l'enjeu des récits de filiation est un enjeu non pas seulement testimonial, où il s'agit de raconter leur vie, mais de leur rendre justice. Et il y a une forme de réparation mémorielle à l'intérieur du récit qui est déployé notamment par Pierre Michon dans une rhétorique d'une grande emphase, une grande ostentation pour exaucer ces figures familiales.
C'est aussi une question peut-être de vous écrivez en tout cas une question d'identité, de temps, de génération. Au centre des Vies minuscules, il y a quand même le vide laissé par l'absence du père, qui justement autour duquel de cette absence autour de laquelle tout se construit. Est-ce qu'il y a quand même une forme de filiation par l'absence en réalité de par la reconstruction justement de ce vide?
Il y a dans le livre de Pierre Michon véritablement un noyau obscur, un centre névralgique et magnétique qui en quelque sorte est le lieu depuis lequel toutes les autres vies vont s'agencer. C'est-à-dire que toutes les autres vies vont être autant de détours ou de pièces de puzzle qui vont constituer une marelle autour de ce centre névralgique. Mais de manière plus large, ce qui est important de souligner, c'est à quel point les récits de filiation s'ancrent dans un silence ou dans une absence de transmission. Quelque chose ne s'est pas dit, une parole n'a pas été prononcée, un héritage n'a pas été donné, ne s'est pas passé, et le récit s'écrit bien au lieu même de cette absence, ou pour compenser cette absence. Un des récits de Pierre Bergoglio s'intitule « L'orphelin », et il s'intéresse à la figure du père qui est orphelin de son père, tué lors de la Grande Guerre. Et il y a quelque chose comme une cassure de la transmission à partir duquel s'écrit le récit de filiation. Ce qui est important, c'est que il y a en quelque sorte des témoignages, des discussions, des paroles ou des palabres qui n'ont pas eu lieu et que le récit vient en quelque sorte tresser ou rapiécer à travers des pièces rapportées ces discussions ou ces paroles qui n'ont pas existé. Ce qu'on retrouve très bien dans le livre d'Hélène Gaudy, c'est aussi que le livre est là pour renouer une conversation qui n'avait pas eu lieu auparavant.
Hélène Gaudy, est-ce que vous êtes, évidemment, vous êtes sans doute d'accord avec ce que vient de dire Laurent Demance, mais est-ce que vous étiez plutôt consciente de cela, de cette façon de reprendre en fait une conversation qui n'avait pas existé jusqu'à présent?
Oui, bien sûr. Je retrouve beaucoup de choses dans ce que vient de dire Laurent, et la question du manque de la parole, effectivement, a sans doute était le déclencheur du livre, cette absence de souvenirs déclarés de mon père, cette communication qu'on avait, mais qui était essentiellement tressée de choses qui justement ne sont pas dites, du jeu, d'une complicité autre. Mais finalement, en écrivant le livre, je me suis rendu compte que il y avait une autre forme de conversation qui nous liait, mais qui n'avait jamais été mise au jour, c'est vrai, et que l'écriture pouvait en rassemblant les points, justement, en reliant l'archipel, faire surgir des choses qui, en fait, étaient là, mais qui avaient besoin d'être reliées, qui avaient comme un alphabet un petit peu en désordre qu'il fallait remettre dans le bon sens pour comprendre les choses. Et finalement, il y a beaucoup de choses que mon père m'a dites sans me les dire, qui m'a transmises avec d'autres moyens que ceux de la parole. Et notamment la collection, c'est vrai, les objets. J'aime beaucoup cette idée de communauté provisoire. Et c'est aussi ça, c'est aussi mettre ensemble des objets qui en soi n'ont pas de valeur, n'ont même pas de signification. Parce que souvent, mon père me disait même ne pas se souvenir pourquoi il avait récupéré tel ou tel objet. Il me disait, je les prends parce qu'ils me frappent, parce que voilà, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est encore une fois quelque chose qui n'est pas dans la parole. C'est un lien qu'on ressent à un moment donné avec une chose, avec un objet ou avec une personne des fois, qui ne passe pas par la parole, mais on sent qu'il y a quelque chose. Et c'est en assemblant tout ça que petit à petit, ça crée une image. Et pour moi, ça, c'est vraiment la manière dont je travaille aussi l'écriture, c'est-à-dire mettre des choses ensemble, tirer des fils, essayer de... Et là, il y a une image qui commence à se dessiner. Et je me suis rendu compte sur la fin de l'écriture que finalement, il y avait toute une conversation plus souterraine que j'avais eue avec mon père et que j'avais besoin de l'écrire pour mettre les choses dans l'ordre et pour donner vraiment du sens à tout ce que j'avais entendu sans l'entendre vraiment.
Laurent Demanze, l'héritage est aussi matériel, il a une matérialité à quoi la littérature s'affronte, un matériau tout à fait réel avec lequel on fabrique du texte.
Oui, alors c'est un matériau qui peut être par exemple des objets, une maison. On peut penser par exemple à la maison indigène de Claro qui va s'intéresser à une figure de grand-père architecte et comment le lieu est en quelque sorte un lieu de mémoire, dépositaire d'une histoire aussi de la colonisation. Mais cette matérialité, elle est souvent aussi saisie à travers une gestualité. C'est-à-dire que ce qui se transmet, c'est aussi une attention à des manières de faire, à des façons de prononcer, à des intonations. Et il y a de la part des écrivaines et des écrivains un grand souci de restituer les corps des ascendants. On peut penser notamment à toute l'entreprise de Dany Ernaux dans La place et une femme qui consigne avec une très grande méticulosité, une ethnographie en quelque sorte des manières de parler, des manières de manger et qui, à travers la figure parentale, redessine un espace social. On peut penser aussi à un autre texte, très beau texte de Martine Saunier, Atelier 62, où elle s'intéresse à son père, ouvrier dans des usines automobiles, et à redessiner en quelque sorte une anatomie du corps paternel et de ce que fait le travail au corps. Quelque sorte la violence que le travail inflige au corps, ses déformations, et ce qui se transmet de ces déformations malgré tout dans l'héritage. Il y a aussi dans le livre d'Hélène Godin une très grande attention à cette question des gestes, cette manière de se situer un peu en retrait, le travail de discrétion du père, quelque chose comme une attention non pas seulement aux mots, mais à tous ces non-dits qui circulent en sourdine ou de manière souterraine dans la gestuelle.
Laurent Demanze, vous êtes aussi un spécialiste de l'enquête. Il se trouve que finalement le récit de filiation bien souvent prend la forme d'enquête ou que l'enquête permet au récit de filiation d'advenir, comme dans le cas d'Archipel d'Hélène Gaudy. Est-ce que c'est le récit de filiation qui vous a amené justement à découvrir l'importance de l'enquête ou l'omniprésence même de l'enquête dans le récit contemporain?
Absolument, absolument. Il y avait une grande continuité entre mon livre sur les récits de filiation et mon livre sur l'enquête, parce que les écrivaines et les écrivains sont des enquêteurs à l'intérieur de la famille. Ils mobilisent des outils qui vont être des outils de l'enquête, mobilisant des archives, traquant des photographies, interrogeant des témoins, utilisant des systèmes de preuves ou des systèmes hypothétiques pour essayer de combler les manques, de faire parler les lacunes. Il y a aussi quelque chose qui se déplace en quelque sorte dans ces récits de filiation par rapport à des biographies, c'est que la plupart de ces récits sont des récits qui disent le mouvement de la connaissance, le mouvement de la recherche, le mouvement de l'investigation, et non pas d'écrire une existence passée du début à la fin. En quelque sorte, ce qu'on accompagne, c'est un trajet de savoir, un trajet chaotique, un trajet heurté, un trajet souvent incomplet, mais en tout cas, on suit tous les gestes que les écrivains vont mobiliser pour essayer de dessiner une silhouette et la faire se détacher du fond de l'oubli.
Dessiner une silhouette, dans le cas de l'archipel, c'est très clair. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur la mélancolie, le rendement, si vous voulez bien. Vous écrivez dans votre essai « Si la mélancolie colore de deuil le récit de filiation, c'est qu'elle dit l'irruption traumatique du temps et de l'histoire dans l'expérience individuelle. La mélancolie ne serait donc pas le deuil impossible de tel épisode lumineux du passé, mais la perte irrémédiable du temps fantasmé qui précède l'histoire, de l'éternité préservée, de l'origine, laquelle a souvent la saveur de l'enfance dans le récit de filiation. La mélancolie serait alors une maladie historique. »
Il me semble que la mélancolie, telle qu'on peut la décrire ou la recevoir, c'est véritablement un sentiment de l'histoire. C'est-à-dire quelque chose qui est la perception aiguisée, très forte, que les individus, les figures, les lieux sont soumis à une entropie qui va les dévaster à plus ou moins longue échéance. Et les écrivains et les écrivaines, quand ils travaillent dans le récit de filiation, ils travaillent en quelque sorte à dresser des hommages, des mausolées ou des tombeaux pour faire pièce, de manière provisoire, à ce grand mouvement de l'histoire qui va emporter l'ensemble de nos civilisations. Et il n'est pas anecdotique que le livre d'Hélène Gaudy commence par cette île qui s'enfonce à cause de la montée des eaux, et on voit bien que l'anthropocène, le désastre climatique qui arrive, accentue ce sentiment de mélancolie. Et cette mélancolie, elle va de pair, et c'est ce qui me touche dans cette émotion, elle va de pair aussi avec une colère. C'est pas une émotion fade. Claude Simon le dit très bien, la mélancolie, c'est un moment où l'écriture va se coltiner à cet effacement et va essayer de se rebiffer contre cet effacement pour faire du texte un rempart provisoire, éphémère, fragile, contre la disparition.
Écoutons Pierre Michon au micro de Colette Felous en 2002.
Ma mère est morte seulement il y a un an. Je ne sais pas comment elle a vécu les vies minuscules.
Mais
elle a lu plusieurs fois, enfin elle a lu, elle était institutrice ma mère, elle n'était pas tout à fait prolétaire, intelligente. Et elle, non pas que les prolétaires ne soient pas, non mais je veux dire, elle avait quelques, un peu d'instruction enfin. Et quand je l'ai, la dernière fois, quand elle est rentrée à l'hôpital pour ne plus en revenir, il y a un peu moins d'un an maintenant, elle avait, je suivais en voiture, et sur la civière, elle était sur la civière, et elle tenait les vies minuscules. Ce qui m'a vraiment époustouflé. Là, il y a quelque chose, elle ne parlait pas, elle était très mal, mais elle tenait ce livre.
Comme un livre de prière ?
Comme un livre de prière. Mais comment l'a-t-elle vécu ? Comment l'a-t-elle... C'est un livre très intime. C'est-à-dire que j'ai porté à ma mère un amour absolu. J'ai une fille maintenant qui remplace ça. Enfin, mais pour moi, l'amour est un amour de filiation. Sans doute suis-je oedipien incurablement. Et ce livre a été fait pour elle, en partie pour lever son deuil. Il n'a pas levé son deuil. Il a levé le mien, pas le sien. Ce qu'on fait a toujours des effets secondaires, qui sont les grands effets, mais pas ceux qu'on croyait.
Laurent Demance, nous venons d'entendre Pierre Michon au micro de Colette Felous en 2002 dans une archive extrêmement émouvante où il résume un peu ce que nous avons dit, mais dans la réalité, il y a à la fois la mère, les vies minuscules qu'elle tient en partant mourir à l'hôpital, et puis ce fils qui finalement est advenu, est devenu l'auteur qu'il voulait être pour ériger ce tombeau à sa mère qui n'en avait pas.
Oui, c'est vraiment une archive particulièrement poignante, je trouve, de ce que fait la littérature comme accompagnement, comme espace de survie, espace de réparation aussi, pour reprendre la formule d'Alexandre Geffen. Il y a quelque chose dans le livre que compose Pierre Michon comme un geste d'offrande, un geste de donation. Et c'est vrai que beaucoup des textes, des récits de filiation s'inscrivent un peu dans ce motif de la dette, hein, du livre comme offrande, pas seulement comme hommage, mais comme offrande, comme un don de mots pour un don envers les morts aussi. Mais ce que pointe aussi Pierre Michon, c'est que il ne sait pas comment le texte a été reçu par sa mère. Et c'est bien ce qui me semble être la grande singularité du texte d'Hélène Gaudy, si on veut faire une comparaison, c'est que le texte d'Hélène Gaudy, c'est écrit dans la conversation avec le père. Il s'écrit pas depuis la mort du père, mais depuis une discrétion, depuis une disparition, hein, puisque c'est une figure qui prend la tangente ou vit à couvert, nous dit-elle. Mais dès lors, elle va écrire avec lui. Et je pense que écrire pour les morts ou depuis la mort n'est pas du tout le même geste que écrire avec les vivants, en leur compagnie, dans leur conversation, même si cela peut se rejoindre dans un souci qui est un souci d'offrande de mots.
Dans la conversation des vivants, Hélène Gaudy, est-ce que vous vous retrouvez dans cette expression ?
Je trouve ça très beau, oui. Et c'est vrai qu'il y avait l'envie, un moment dans le texte, je parle d'essayer de créer une archive du présent. Et c'était vraiment l'envie que j'avais. Et puis, il y avait ce sentiment d'urgence aussi. Hein. C'est vrai que j'ai la chance que mon père soit encore là. Et que j'avais envie de faire ça pendant qu'il était là, parce que je voulais aussi vivre tout ce que le texte allait susciter en dehors de lui, le changement de regard que ça allait susciter. Et une chose que je trouve importante aussi dans l'idée de la littérature comme rempart, c'est l'attention. Voilà, la mélancolie est tournée aussi vers ce qui est passé, vers ce qui va disparaître, c'est vrai, mais il me semble qu'une des armes qu'on a quand on écrit, c'est être attentif, c'est se rendre attentif à ce qui est en train de se produire et aussi à ce qui s'est déjà produit, mais en tout cas de nous mettre dans un état d'alerte, de curiosité, d'attention. Et ça, il me semble que c'est vraiment ce que j'ai retenu du parcours de mon père, c'est qu'on peut ne pas beaucoup raconter ce qu'on a vécu, ne pas être dans la parole, mais en tout cas, il m'a transmis, je pense, ce désir d'attention. Et pour moi, le pouvoir de l'écriture par rapport à la disparition, c'est ça aussi. C'est pas seulement sauver des choses qui, sans l'écriture, auraient disparu, mais c'est, tant qu'elles sont là, avoir le pouvoir de les regarder et de les garder vivantes par cette attention-là.
Laurent Demanze.
Oui, ce souci d'attention, ce souci en quelque sorte de découvrir le monde, me semble au cœur du travail d'Hélène Gaudy. C'est une formule qu'elle emploie à propos de son père, découvrir, c'est-à-dire enlever la couverture de l'habitude pour essayer d'accentuer, d'intensifier le rapport au vivant. Et ça me semble être extrêmement, extrêmement important, et même politiquement et éthiquement important de se dire que la littérature est cet outil qui permet cette intensification du côté de l'infraordinaire, du côté des gestuels, pour dans un moment qui est un moment de conversation ou un moment de suspens de la vie quotidienne, pouvoir ralentir, creuser les non-dits, investir les figures les plus proches, et qui, parce qu'elles sont proches, nous rendent très souvent myopes.
Merci beaucoup, Laurent Demanze. Merci, Hélène Gaudy.
Merci beaucoup.
Je rappelle que votre roman Archipel, paru aux éditions de L'Olivier, figure dans la sélection des romans de la rentrée de France Culture. Cette conversation littéraire était réalisée par Rafik Zénine avec Stéphane Toutenin à la technique aujourd'hui. Merci à Aurélie Marsay qui m'a aidé à préparer cette émission et merci à Chantal Nouvelot des studios de Radio France à Lyon. Nous nous retrouverons samedi prochain, mais d'ici là, vous pouvez bien sûr réécouter et podcaster la conversation littéraire sur le site de France Culture et l'appli de Radio France.